Merci Mickaël et j'en profite pour saluer chacun d'entre vous. Je ne l'ai pas fait au début de ce culte et je profite de le faire maintenant. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse et nous arrivons tout doucement à la fin de notre série qui va s'achever avec le chapitre 11. Et ce matin, si vous avez une Bible sous le coude, ce que j'espère, je vous invite à l'ouvrir au chapitre 6 et le chapitre 7. Nous allons évoquer ces deux chapitres. Et le chapitre 7, c'est l'embarquement, à savoir l'histoire de Noé, qui commence déjà dès le chapitre 6 et qui se prolonge sur le chapitre 7 et sur le chapitre 8 et 9. Et donc ce matin, on va porter notre regard sur le chapitre 6 et le chapitre 7. Michael, la semaine prochaine, va nous parler du chapitre 8 et du chapitre 9, et nous terminerons ensuite avec le chapitre 10 et le chapitre 11. En fait, j'ai eu beaucoup de difficultés à préparer ce qui finalement ne sera pas une prédication telle que j'ai l'habitude de le faire. C'est pas faute de temps, mais c'est faute d'avoir vraiment eu des difficultés à mettre en ordre dans ma tête l'ensemble des idées et l'ensemble des thèmes. Donc, ce matin, je vais plutôt faire un commentaire, je vais plutôt vous proposer trois commentaires, trois pensées au sujet de ce texte de Genèse 6 et Genèse 7. Alors, nous sommes dans la thématique, en introduction de ces trois thèmes, on est dans la thématique de la montée des eaux, du jugement de Dieu, et c'est peut-être une thématique que connaissent les mers ce matin, puisqu'ils ont une fuite d'eau, l'eau coule, et c'est ici le déluge du ciel et la pluie qui va tomber. On est dans la même thématique, la montée des eaux, chez les mers ce matin, mais probablement que c'est beaucoup plus modeste que dans l'histoire de Noé. Trois remarques, trois commentaires que je vous propose sur ces deux chapitres. Le premier, c'est directement lié à l'histoire de Noé et à la fabrication de son arche. En fait, en lisant le texte, je me suis dit que Noé a été confiné comme nous pendant plus d'une année, entre le moment où il est monté dans l'arche et le moment où il en est sorti. Il s'est passé plus d'une année. Alors il y a dans le texte, et particulièrement dans le chapitre 7 et le chapitre 8, encore une fois, un jeu avec les nombres. Vous avez deux séquences de 7 jours qui précèdent l'entrée de Noé dans l'arche. Après, vous avez la montée des eaux pendant 40 jours. Ensuite, vous avez 150 jours d'attente. Et puis 150 jours. Une autre période de 150 jours qui va correspondre à la décrue, et vous aurez 40 jours de nouveau d'attente entre la colombe qui est envoyée, et puis après il y aura de nouveau deux cycles de 7 jours. Donc une mise en récit qui se fait dans le chapitre 7 autour de périodes bien définies. Que fait Noé dans cet épisode? Selon les ordres que Dieu lui a donnés, il construit une immense barge qui fait à peu près 150 mètres de long par 25 mètres de large, avec trois étages, dans lequel vont résider, pendant le temps du déluge, des couples de toutes les espèces d'animaux qui couvrent la surface de la terre. Et on va aussi y retrouver Noé dans cette arche, avec ses enfants et ses belles-filles. Donc la famille proche de Noé, et des animaux, un couple de chaque animal que Dieu a créé, qui se retrouve dans l'arche. Et cette histoire de Noé nous dit quelque chose de la grâce et du jugement de Dieu. Et donc je vais maintenant laisser de côté le récit de Noé, cet ordre que Dieu donne à Noé de construire un grand bateau, un grand navire, une grande arche dans lequel il va le sauver. Et j'aimerais plus particulièrement faire deux autres commentaires ce matin. Le premier, c'est sur l'étendue du mal. Et c'est véritablement ce que le chapitre 6 et le chapitre 7 nous expliquent. C'est l'étendue de la corruption et l'étendue du mal. Et le deuxième commentaire que j'aimerais faire sera sur le jugement de Dieu, mais aussi sur la grâce de Dieu qui paraît dans ce texte. Alors, premier commentaire, c'est celui de l'étendue et de la corruption de l'humanité. Et il faut remettre cela dans son contexte. Rappelez-vous, Genèse chapitre 1 à 11, ce sont les révélations de nos origines. D'où vient notre humanité? D'où vient le monde? D'où vient le mal? Les 11 premiers chapitres répondent à ces questions fondamentales. Les deux premiers chapitres sont le récit de la création, ce monde parfait que Dieu crée et dans lequel il nous installe, nous les hommes. Ensuite, nous avons le chapitre 4 qui est celui de la chute, comment le mal est entré dans ce monde et comment il nous a corrompus, nous les êtres humains et la création tout entière. Et nous avons dans le chapitre 4 le premier meurtre de l'humanité, les deux premiers frères qui apparaissent dans l'histoire de l'humanité, l'un tuera l'autre, Caïn a tué Abel. Au chapitre 5, nous avons la généalogie qui va nous amener des descendants de Adam jusqu'à Noé, et on a vu que l'auteur du livre de la Genèse veut tracer cette trajectoire qui, après le désastre de Genèse 3, l'introduction du mal dans ce monde, veut nous propulser jusqu'à Abraham, qui lui va être l'objet d'une promesse. Dieu va faire une promesse à Abraham qui sera pour toutes les nations. Et l'auteur veut nous propulser vers la généalogie, au travers de sa généalogie, vers Abraham, qui ensuite introduira Jésus-Christ. En fait, Dieu va venir au secours de cette humanité en détresse. Et c'est déjà un premier fait de sa grâce, un premier signe de sa grâce qui apparaît. Dans Genèse au chapitre 5, nous l'avons vu la semaine dernière, qui avait aussi deux lignées, mais il y avait les descendants d'Adam au-delà de Caïn, mais dans la lignée de Caïn, il y avait la lignée de Caïn brille par ses descendants qui font le mal. Et en fait, Genèse chapitre 5 et chapitre 6, Genèse chapitre 5, la généalogie, et chapitre 6, c'est le constat de la prolifération du mal dans cette humanité. En fait, ce qui caractérise l'après-chute, ce qui caractérise l'après-création, c'est le mal qui se prolifère. Et nous en avons déjà quelques extraits. Alors, j'essaie juste de récupérer ma souris et mon texte pour y arriver. Voilà, j'y arrive. Voilà. Le constat que nous faisons est sans appel. Je vous invite à lire trois versets. Chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, et c'est devant ce constat de prolifération du mal, « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres. Je leur donnerai plus que 120 ans à vivre. » Devant le constat du mal qui prolifère, il y a là un premier jugement de Dieu. Après une généalogie dans chapitre 5, où nous avons une idée de l'étendue de la durée des âges des premiers habitants de cette terre, Dieu abrège, comme pour limiter l'étendue du mal et pour limiter les œuvres mauvaises des hommes, il abrège la durée de vie. Toujours dans le même chapitre, au verset 5, il y a un deuxième constat de la part de Dieu. Dieu vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. S'il fallait décrire l'état d'esprit de l'humanité à cette période-là, s'il fallait décrire quel était le principal penchant de l'être humain, était-il tourné vers le bien ou vers le mal, la réponse est sans appel. Il est fondamentalement tourné vers le mal. Et nous continuons encore notre lecture, toujours dans le même chapitre, verset 6, les versets 11 à 13. « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. » Et c'est vrai que entre le chapitre 3, l'entrée du péché dans le monde, et le chapitre 6, nous avons un tableau qui nous est dépeint sur les œuvres mauvaises de la part des hommes. Jalousie de Caïn envers Abel, Et l'histoire se termine par un meurtre. Ce sont les deux premiers frères de l'humanité. Et nous avons cet avertissement de Dieu à Caïn, dès le chapitre 3, le péché est tapi à ta porte, je cite ce que Dieu dit à Caïn, son désir se porte sur toi, mais toi domine-le. Et ça dit quelque chose du combat de l'homme que nous connaissons encore aujourd'hui. Combien de fois le péché est tapi à notre porte, son désir se porte sur nous. Il veut conduire nos actes. Et nous sommes dans un combat rude, mais toi domine-le. Dans la suite du récit du meurtre de Caïn, de son frère Abel, après avoir tué son frère, Caïn lui-même met Dieu en accusation. Il dirige vers sa colère vers Dieu. Nous le voyons à différents endroits dans le récit lorsqu'il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» où il accuse encore Dieu d'être maintenant chassé des terres fertiles et il accuse Dieu de cela alors que c'est la conséquence de son meurtre. Il rend Dieu responsable de sa situation et nous le voyons au chapitre 4, verset 13 et verset 14. La semaine dernière, dans la généalogie des descendants de Caïn, nous trouvons Lémec, qui est un homme avide de sang et de vengeance. Sa chanson préférée de Lémec nous est mentionnée dans le texte. Voici ce que dit Lémec, voici ce qu'il chante. J'ai tué un homme pour ma blessure, un enfant pour ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Et c'est le chant qu'il chantait devant ses femmes. Donc nous avons là un homme avide de vengeance, qui est avide de sang. Et puis, un peu plus tard dans le texte, notamment au chapitre 7, nous avons aussi l'immoralité sexuelle qui transparaît dans le récit. En fait, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les prirent pour femmes. Tel que nous lisons le texte ici, alors il y a beaucoup de questions dans ce chapitre 6. Que sont les fils de Dieu? Nous savons que ce ne sont probablement pas des hommes. Il est difficile de dire avec certitude qui étaient ces fils de Dieu. Il se peut, il y a deux explications possibles. Il se peut que ce soit des êtres spirituels qui ont pris les apparences humaines et qui se seraient liés sexuellement avec des femmes. Mais cela pose un certain nombre de questions. Il n'est pas impossible par ailleurs que ce soit des êtres humains, en fait, qui sont possédés par des esprits, donc des personnes possédées, et qui se soient unis avec des femmes. Ici, il y a la faute qui est dénoncée. En soi, ce n'est pas coupable que de choisir une femme, de se marier avec elle et de s'unir avec elle. Mais ici, c'est la notion telle que c'est rapporté dans le texte, c'est que c'était comment dire, le mouvement principal ou la motivation principale dans les relations humaines, le plaisir et l'immoralité sexuelle. Et donc, quand nous dressons ce tableau, à partir des chapitres 4, 5 et 6, nous avons le constat que le mal prolifère, une immoralité morale, une immoralité religieuse, la rébellion contre Dieu, mais aussi une immoralité au quotidien dans les relations qui sont caractérisées par la violence et par la violence et non plus par la paix et ce que nous avions dans Genèse 1 et 2, c'est-à-dire l'harmonie dans les relationnels, dans les relations. Et le constat de Dieu est sans appel face à ce mal. Quel est-il? Je supprimerai de la surface de terre les hommes que j'ai créés. Est-ce que vous trouvez ce constat sévère? Et j'aimerais juste que l'on prenne peut-être quelques instants de discussion. Hein, nous avons là, dans ce mal qui prolifère, un contraste énorme entre la perfection de Genèse 2, 1 et 2. Quand je dis la perfection, c'est le monde parfait dans lequel l'homme vivait, il y a un contraste énorme entre Genèse 1 et 2, et la situation à partir de Genèse 3, 4 et 5. Alors, à votre avis, et je vous pose la question, allumez vos micros si vous avez une réponse à donner, pourquoi, à votre avis, Dieu dit, je supprimerai de la surface de la terre, les hommes que j'ai créés? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire? Une idée? Oui. Il y a... Alors, quand Dieu dit qu'il regrette, ça... Tel que c'est formulé dans le texte, cela pourrait laisser croire que Dieu est complètement dépassé et qu'il se dit, mince, j'aurais jamais dû créer. Or, quand nous lisons ailleurs dans la Bible qui est Dieu, nous savons qu'il est souverain sur toute chose et qu'il est non seulement il a une préconnaissance de toute chose, mais il est aussi à l'origine de toute chose. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu parle à partir de nos réalités humaines pour exprimer l'ampleur du mal et aussi le jugement qu'il va exercer sur cette création au travers du déluge. Mais justement, pourquoi est-ce que Dieu regrette et pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il va supprimer les hommes? Autre proposition? On est sur la bonne piste, Brigitte. Effectivement, l'affliction est-ce qu'on peut juste peut-être le préciser un peu davantage? Pourquoi est-ce que Dieu est affligé? Qu'est-ce qui le désole dans ce constat? Merci Anne. L'affliction de Dieu, elle est due justement à ce que Ruth a expliqué, c'est ce que Dieu avait créé, expression de sa bonté, expression de son amour, un monde merveilleux, parfait, avec deux êtres humains parfaits qui ont été créés, qui ont été mis dans ce monde, et voilà que par leur désobéissance, ce rêve s'est transformé en un cauchemar. Et les êtres humains, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu, et ont cassé toute la création, tout ce que Dieu avait fait de beau. Et l'affliction vient de là. Peut-être deux petites illustrations pour imaginer ce contraste et la raison pour laquelle Dieu vient à ce constat, je détruirai. Vous savez, c'est comme un parent qui offre un jouet à son enfant, un jouet qui lui a coûté de l'argent, un jouet que le parent a choisi avec beaucoup de soin, en se disant, ce jouet va réjouir le cœur de mon enfant. Et une fois que l'enfant récupère le jouet, qu'il le déballe, sans savoir pourquoi, il se met en colère, il le casse et il le détruit. Et quelle est la réaction du parent? La déception, l'affliction. Et que ferions-nous probablement en tant que parents? C'est de retirer l'objet, de retirer le jouet à l'enfant. Affligé parce que ce qui était bon, a été salie et détournée de sa finalité. Une autre petite illustration encore que je vous propose, il se trouve que c'est une histoire vraie. Encore une fois, c'est toute proportion gardée, mais c'est pour que dans notre tête, nous puissions comprendre le contraste entre ce monde parfait et la prolifération du mal. C'est une jeune fille qui, pour la première fois, amène et présente à son parent, présente à ses parents, celui qui va devenir ses fiancés. Et ça se passe autour d'un repas. Et donc, le futur beau-père fait face à son futur gendre. Et pour honorer son futur gendre, il descend dans sa cave à vin parce que ce futur beau-père aime le vin et il a des bouteilles de très grande valeur dans sa cave et il va choisir une de ses meilleures bouteilles pour honorer son beau-frère. Et donc, au début du repas, il tire le tire-bouchon, il cherche le tire-bouchon et il ouvre la bouteille, il serre son futur gendre pour l'honorer. Son futur gendre prend une gorgée et au bout de la première gorgée, il repose son verre et il prend la bouteille de Coca-Cola pour compléter la boisson de vin avec du Coca-Cola. Et vous imaginez la tête du beau-père qui probablement a dû retirer la bouteille. Alors, vous comprenez l'affliction de Dieu. C'est toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est juste pour dire, Dieu regrette. Dieu se dit, mais qu'ont fait les hommes? Et c'est la raison de son jugement. Le jugement de Dieu n'est pas un caprice d'un Dieu. Le jugement n'est pas de faire payer à l'homme. Il y a quelque chose de profondément juste dans le jugement que Dieu va faire. On efface tout. C'est tellement grave, la perversion du péché est tellement grave que l'on va tout effacer. Et j'aimerais ici faire ma deuxième remarque. Donc ma première remarque, c'était l'ampleur du mal dans ce monde. Et la deuxième remarque, c'est le jugement de Dieu qui va s'opérer. En fait, Dieu fait le constat que devant la prolifération du mal, qu'est-ce qu'on va faire? On efface tout. On efface tout. Et cela va se passer par l'eau. Dieu va exercer son jugement par une montée des eaux qui va supprimer la vie sur la terre. Et le vocabulaire utilisé dans le récit du chapitre 7, pour parler de ce jugement de Dieu, vous allez retrouver de nombreuses expressions qui sont présentes dans le chapitre 1 et 2 de la Genèse. Vous le trouvez dans, notamment, lorsque les eaux commencent à monter, les catégories des montagnes, de la nature qui sont mentionnées dans ce chapitre 7 sont les mêmes que celles que nous trouvons dans les 7 premiers jours de la création. En fait, Dieu est en train de décréer son monde. Son jugement est une décréation du monde. On supprime le mal, on supprime ce qui est vil. Et j'aimerais insister sur la notion de justice du jugement de Dieu. En fait, Dieu répond de manière juste aux actes coupables des hommes. Voilà ce que les hommes méritaient, et nous mesurons la justice du jugement de Dieu en comparant le monde parfait de Genèse 1 et 2 et de la prolifération du mal en raison des actes des êtres humains que nous trouvons dans les chapitres 3, 4 et 5. Dieu est juste quand il exerce son jugement. On recommence tout, on efface tout. Mais voyez-vous, dans cet acte de jugement, il y a aussi un acte de grâce. Ce que nous aurions pu imaginer, c'est que Dieu détruise définitivement toute la création. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans le chapitre? C'est que un homme avait une conduite qui se différenciait des autres, qui était Noé. Alors, il est déjà mentionné dans la généalogie que nous avons vue la semaine dernière, mais un homme fait exception dans sa conduite, qui est Noé. Et voyez-vous, à cause d'un seul juste, à cause d'un seul homme, dont la conduite, nous pouvons imaginer que sa conduite de Noé n'était pas parfaite. Ce n'était pas un homme sans péché. Mais il se différenciait dans ses motivations du reste de l'humanité. Et à cause d'un seul homme, Dieu ne va pas anéantir et détruire de manière définitive l'humanité et la création que lui-même a créée. Et nous voyons dans la justice, en même temps, la grâce de Dieu. Tout à l'heure, dans le chant Amazing Grace que nous avons écouté, il y a cette phrase, je l'ai notée pendant le chant, mais je ne l'ai plus sous les yeux, mais c'est le fait que nous ne méritions pas la grâce de Dieu. Premier signe de la grâce de Dieu. Jugement, décréation et en même temps grâce. Noé va être un nouvel Adam et c'est ce que va développer Michaël la suite. Alors, quelques applications pour nous aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. La suite du livre de Genèse va nous montrer qu'au travers de Noé, Dieu offre un nouveau départ à l'humanité, mais que très vite on va se rendre compte que à nouveau le mal va proliférer et je ne veux pas anticiper sur la suite, mais ce sera le péché de Noé dont va nous parler Michaël la semaine prochaine. Et nous vivons aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est toujours encore marqué par le même état d'esprit de Genèse 4, 5 et 6. Si nous faisons un constat global de la manière dont fonctionne le monde, nous faisons le constat que le monde est tourné vers le mal. Globalement, le monde est tourné vers le mal. Et globalement, l'histoire de l'humanité ne s'améliore pas. Nous faisons le constat que nous sommes dans une décadence progressive, mais irréversible, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan religieux. Nous vivons avec les mêmes principes qui nous animent que ceux de nos aïeux de Genèse 4 et 5. Meurtre, révolte contre Dieu, soif de vengeance, immoralité, c'est encore l'histoire de notre monde. Et nous faisons aussi le constat dans notre propre vie que c'est le principe qui est actif. Même quand nous souhaitons faire le bien, nous faisons le constat que c'est le mal qui l'emporte. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des fois bien malgré nous, à plus ou moins grande échelle, acteurs du mal dans ce monde. Et nous faisons tous cette expérience que le mal est tapi à notre porte et que nous ne parvenons pas toujours à le maîtriser. Nous souffrons des mêmes vices de nos aïeux, jalousie, envie, haine, soif de vengeance. Et nous réprimons cela plus ou moins bien. C'est une tension dans notre vie. Et même parfois dans notre manière de consommer, ce que je veux dire par là, le mal que nous faisons n'est pas seulement individuellement placé en nous, mais c'est aussi quelque chose qui se traduit dans nos relations les uns avec les autres. Même dans ma manière de consommer, je deviens un acteur du mal, parfois même sans le vouloir. Quand j'achète un vêtement à bon marché, probablement qu'il a été fabriqué dans des conditions que mon éthique déplore. Mais voilà le monde dans lequel nous vivons. Nous faisons face à notre propre péché. Et nous sommes bien conscients que même en voulant faire le mal, sans le vouloir, nous sommes coupables. Nous vivons dans le même monde. Et le jugement à venir est celui que Jésus va exercer lorsqu'il reviendra. Nous en avons déjà parlé, lorsque Jésus reviendra, il viendra pour juger toutes les nations. Et au même titre que dans l'histoire de Genèse 6 et de Genèse 7, à cause d'un seul homme, Noé, Dieu a fait preuve de grâce. De même pour nous aujourd'hui, qui est l'homme qui incarne la grâce de Dieu à notre égard? Jésus-Christ, le juste parfait qui est venu une fois pour toutes accomplir la loi de Dieu. Et à cause de lui, nous serons aussi sauvés. En ce sens, le récit de Noé préfigure la grande intervention de Dieu qui va arriver plus tard en Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse, Nous avons le récit de nos origines, la chute, l'intrusion du péché dans ce monde, puis très vite la généalogie qui va nous propulser jusqu'à Abraham, qui ensuite va nous amener à Jésus-Christ. Et nous avons cette parenthèse du récit de Noé dans la généalogie, comme un prototype, un exemple dont la manière dont Dieu va intervenir pour nous sauver. À cause de Jésus-Christ, Dieu fera grâce à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Nous vivons dans la même humanité qui est marquée par le péché, comme au temps de nos aïeux. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le jugement et la colère de Dieu n'est pas réservé à ceux qui ont placé leur confiance en cet autre Noé, en cet autre super Adam qui est Jésus-Christ. Et c'est là la foi. Placer sa confiance en Jésus-Christ nous épargnera le jugement de Dieu quand Jésus reviendra pour juger toutes les nations. Et cela ne repose pas sur nos mérites, cela ne repose pas sur nos œuvres, parce que nos œuvres sont coupables, mais cela repose sur Christ, sur qui la justice et le jugement de Dieu est passé à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, il le fait pour nos péchés, sa mort est le signe de la colère et du jugement de Dieu qui passe, non pas sur moi, mais qui passe sur lui. Quelle bonne nouvelle! Je termine par une dernière petite remarque. En fait, le monde dans lequel nous vivons, je l'ai dit et redit, est marqué par le mal. Et nous sommes lucides sur nous-mêmes que le mal, même si maintenant notre vie appartient à Jésus-Christ et même s'il nous a donné une nouvelle vie, un nouveau recommencement, même si Dieu a tout effacé et recommencé notre histoire, nous faisons encore le constat du mal. Et ce qu'il nous est difficile dans notre humanité, c'est de comprendre cette perfection, parce que cette perfection de Dieu, nous ne pouvons la comprendre que depuis notre humanité pécheresse. Nous n'avons jamais connu la perfection de Genèse 1 et 2. Donc c'est difficile de savoir, dans toute sa mesure, ce que représentait cette perfection. Nous en avons des éléments que la Bible nous dit, le mal n'y était pas, il y avait cette relation parfaite avec Dieu, etc. Mais nous essayons de comprendre toutes ces choses à partir du monde dans lequel le mal est et dans lequel le mal domine. Et en fait, nous nous habituons à vivre avec le mal. Nous nous habituons à, même si cela nous scandalise, mais le mal fait partie de notre existence. Et nous avons certains réflexes où, pour gérer cette question, nous nous comparons volontiers aux autres en trouvant qu'on n'est pas aussi mauvais que ça si je me compare à un tel. Ou encore, nous nous fixons nos propres limites pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. En réalité, ce sont les conséquences du péché et du monde dans lequel nous vivons et dans lequel le mal est. Nous essayons, par ces artifices, tant bien que mal, de vivre avec les conséquences de notre péché. Nous comparons aux uns aux autres, minimisant le mal que nous avons fait, du mal à reconnaître nos fautes, la difficulté à se repentir, décider si c'est moi-même, si c'est grave ou pas. Quand nous réagissons, toutes ces expériences de vie traduisent les effets du mal dans notre humanité. Je m'arrête là. Un constat sévère, le mal prolifère, il est universel. Le jugement de Dieu qui est juste et qui en même temps va manifester sa grâce, une faveur imméritée à cause d'un seul homme, Dieu va proposer un nouveau départ à l'humanité. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous vivons dans le même monde, que nous faisons face aux mêmes problèmes, mais que notre foi en Jésus-Christ nous assure la grâce de Dieu, met à notre disposition la grâce de Dieu pour vivre aujourd'hui dans l'attente du retour de Jésus, et que nous ne craignons plus le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé sur son Fils Jésus-Christ. Je m'arrête là, et je passe la parole à Michael pour quelques mots de fin.